Faire d'elle, avec Mélanie. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première émission de Terre d'elle qui sera consacrée aujourd'hui à l'automne. Terre d'elle, c'est quoi ? Une émission d'une heure, quatre chroniques, un portrait de femme ou un dossier thématique avec questions-réponses. La Minute Info, ça se passe près de chez vous. Au sommaire d'aujourd'hui, dans la chronique Nature féminine, je vous parlerai de la cure d'automne. Puis, dans la chronique Graines de vie consacrée à la grossesse et au maternage, on parlera du projet de naissance. Qu'est-ce que c'est ? Comment le réaliser ? Notre invitée ce mois-ci est chroniqueuse, Corinne, pour un portrait de femme. Elle nous présentera son parcours et son activité de masseuse. On la retrouvera juste après, avec la rubrique Bien-être et fourchette, un autre regard sur l'alimentation. Puis on terminera par des idées bricolage pour les enfants autour du thème de l'automne. Dans notre chronique intitulée « Éclats de rire et bulles d'idées ». Donc on commence par notre chronique Nature féminine. Une chronique consacrée à l'épanouissement de la féminité, on parlera également de sagesse féminine, vivre au rythme de son corps et de ses cycles. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la cure d'automne. Pourquoi faire une cure ? À chaque changement de saison, c'est recommandé de faire une cure en effet. Parce qu'on assiste à des changements biologiques qui se font dans notre corps. On a également fait des excès pendant les vacances. Les glaces, les barbecues, l'alcool. Plein de facteurs et d'éléments qui encrassent notre corps dû à l'accumulation des toxines et qui fatiguent les organes. La cure va donc permettre de se nettoyer et de retrouver forme, vitalité. On va également soulager les organes de la digestion qui sont surchargés comme le foie, les intestins et ceux de l'élimination, notamment les reins et la vessie. Alors comment mettre en place cette cure ? Tout d'abord, on va commencer par boire à jeun tous les matins un grand verre d'eau et le jus d'un citron. Cette cure est donnée pour une durée de 21 jours. On va éliminer la viande, première chose. On va laisser que les œufs et le poisson à hauteur de 3 fois par semaine maximum. Pour remplacer, on va introduire des légumineuses comme les lentilles, le quinoa ou encore le millet qui contiennent des protéines végétales. On introduira aussi en plus grande quantité le soja. On va ensuite supprimer les laitages, le matin et le soir. Alors pour remplacer les laitages du matin, on prendra des laits végétaux. Et le soir, on mangera des yaourts ou des crèmes végétales. Alors pour les laits végétaux, on peut par exemple acheter du lait d'amande, qui est très riche en calcium, du lait de riz ou encore de soja. Il existe aussi du lait d'épeautre, de noix de coco. Vous pouvez trouver toute une multitude de laits végétaux en magasin. On mangera aussi des aliments qui apporteront du calcium, comme par exemple les brocolis, les choux, les légumes verts en général, ou encore comme le sésame. Il faut savoir que 100 g de sésame contient 98% des apports journaliers en calcium. On gardera le fromage pour les amateurs de fromage un jour sur deux, à condition que ce soit par contre du fromage de chèvre ou de brebis. On va vraiment aller retirer de l'alimentation le lait animal de vache. Manger des légumes verts à chaque repas et introduire les légumes amers pour stimuler le foie. Alors, exemple de légumes amers, par exemple le pissenlit qu'on peut manger en salade, en gratin, en soupe également. On peut prendre du céleri, de la chicorée ou de la scarole. Ces aliments amers vont aller stimuler notre foie. On va éviter pendant cette cure le gluten en remplaçant la farine de blé par de la farine de riz, de noix de coco, de pois chiches ou encore de la farine de châtaigne. Donc cette cure est à faire pendant 18 jours. On élimine aussi le café, le thé et on boit une infusion dépurative et diurétique au moins 2 à 3 fois par jour. Alors, on a dit une cure de 21 jours. Là, je vous dis 18 jours, donc les 3 jours restants, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aller faire une cure de raisin. Pourquoi le raisin ? Le raisin est un fruit qui est diurétique. Il aide à l'élimination, il est gorgé d'oligo-éléments et de minéraux, donc très bon pour la santé. Comment est-ce qu'on va l'introduire ? Eh bien, tout simplement, sur les 3 jours restants de notre cure d'automne, on va essentiellement manger du raisin, le manger et le boire. Donc on va en prendre le matin, un jus au petit déjeuner, un ou plusieurs, on peut prendre 2 jus. On va également le boire en jus le midi. Et le soir, on préférera le manger de façon solide en grappe. On pourra également manger du raisin pendant la journée, à l'encas du matin ou au goûter. Exclusivement donc 3 jours de raisin. Après la cure, donc comment est-ce qu'on réintroduit les aliments et comment est-ce qu'on passe de cette cure à notre alimentation habituelle ? Donc on va continuer le premier jour à prendre notre petit déjeuner essentiellement à base de jus de raisin. Le midi, on va pouvoir réintroduire un repas solide, essentiellement avec des légumes verts et des légumineuses. Puis le soir, on gardera notre jus de raisin. Le deuxième jour, donc le matin, on reprendra un jus de raisin avec un repas solide le midi et un repas du soir solide mais léger, plutôt à consistance de soupe ou de bouillon. Le troisième jour, on prendra notre jus le matin, notre repas du midi et notre repas solide le soir. Enfin, le quatrième jour, on pourra de nouveau redéjeuner le matin avec des aliments solides. Et à partir du cinquième jour, vous pouvez réintroduire vos aliments habituels, la viande ou les laitages, ou encore votre café ou votre thé, mais progressivement et en petite quantité. Un petit tour maintenant du côté de la grossesse et du maternage avec la chronique Graines de vie. Aujourd'hui, on parlera du projet de naissance. Le projet de naissance, c'est quoi ? Pourquoi faire un projet de naissance ? Et comment le réaliser ? Alors, le projet de naissance vous permet de prendre le temps de réfléchir à votre accouchement, de l'organiser, de le concevoir et d'imaginer ce moment le plus idéalement possible. Il aide ainsi à diminuer les angoisses et à répondre aux questions que l'on se pose surtout lorsqu'il s'agit d'une première grossesse. Ce projet de naissance réalisé en couple permet également de donner confiance aux futurs parents et de renforcer votre capacité à être acteur de l'événement. Vous n'êtes plus des spectateurs à qui on impose des décisions, mais vous créez ainsi une vraie relation avec l'équipe médicale qui vous suit et qui vous prendra en charge le jour J. Le projet de naissance n'est pas obligatoire et il n'a aucune valeur juridique, il faut le savoir. Cependant, il est fortement encouragé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Alors, comment réaliser ce projet de naissance et quoi mettre dedans ? Le projet de naissance se fait sous forme de lettres mises sous enveloppe et adressées à votre médecin ou à votre sage-femme, qui le glissera dans votre dossier médical. L'équipe médicale doit respecter vos souhaits, mais elle n'y est en aucun cas contrainte en cas de danger vital le jour de l'accouchement. Mais elle n'y est en aucun cas contrainte en cas de danger vital pour vous ou pour le bébé le jour de l'accouchement. Dans ce projet de naissance, vous pouvez inscrire tous vos souhaits, aussi bien concernant vos soins, la présence du papa ou encore les soins à prodiguer au bébé lorsqu'il sera là. Alors, quelques exemples. Vous pouvez indiquer dans votre projet de naissance si vous souhaitez ou non accoucher à la maternité ou bien si vous préférez accoucher chez vous. Dans ce cas, renseignez-vous bien préalablement auprès de votre sage-femme. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez avoir recours ou non à la péridurale. Si vous acceptez ou non le jour de l'accouchement l'épisiotomie, vous pouvez également indiquer si vous souhaitez allaiter ou si vous préférez un allaitement artificiel. Vous pouvez également demander dans votre projet de naissance à attendre pour couper le cordon ombilical, prendre l'enfant contre vous, le mettre au sein. Et encore, vous pouvez indiquer dans votre projet de naissance si vous refusez que votre enfant soit mis en couveuse.
T'es là quand elle s'allonge, quand leur bouche ronge, m'allonge. On aura le temps à l'orage, la baie fut de passage. Puisque mes doigts résistent encore, je vomis les cœurs de tous ces corps. On me veut fort, fais du combat, mais moi, je veux me battre avec toi. Puisqu'il est tard que j'écris vite, un bleu canard brise la vitre. Je vis d'une cuvée de chasse-pline, dans un pull à toine et vie marine. Il te semble, Cherbourg et Séville nous ressemblent. Puisqu'on me parle d'autres langues, la tienne m'aidait à comprendre. On attendra l'hiver pour s'écrire qu'on se manque, que c'était long hier, que c'est long de s'attendre. On attendra l'hiver qu'on se manque, que c'était long hier, que c'est long de s'attendre. Puisque tu ne veux plus m'entendre, sans opinel pour te défendre, dans ton dressing abandonné, R. Chanel désincarné. Tu ne veux plus comprendre qu'il faut des années pour tout prendre, sans se laisser s'envoler de la parade des baguettes. Tu pardonnes mon cœur de rouvrir notre tombe, pour y planter mon cœur, les pensées d'autres blondes. On attendra l'hiver pour s'écrire qu'on se manque, que c'était long hier, que c'est long de s'attendre. On attendra l'hiver qu'on se manque, que c'était long hier, que c'est long de s'attendre. Tu me pardonnes mon cœur,
Doré, on attendra l'hiver sur CFM dans l'émission Terre d'Elle. Et je vous retrouve tout de suite pour le portrait de femme du mois. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Corinne Meynier, notre invitée du jour et chroniqueuse, qui tous les mois nous parlera de l'alimentation dans sa rubrique Bien-être et Fourchette. Bonjour Corinne.
Bonjour Mélanie.
Alors Corinne, peux-tu te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, quelles sont tes passions, nous parler de toi?
Donc je suis Corinne, je vis à Parisot, plus précisément à Pêche-Bernoux, depuis peu, depuis le mois de juin, où j'exerce ma profession de masseuse. Je suis originaire de Normandie, où je travaillais dans notre maison familiale et où je proposais des chambres et des repas d'hôtes, ainsi que mes massages.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que moi, ça m'intéresse, tu viens de Normandie. De quel coin de Normandie, exactement?
Alors, dans l'Eure, plus précisément, à Évreux.
D'accord. Donc, les massages, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, nous présenter peut-être quel type de massage tu proposes et surtout ce que ça procure, ce que ça apporte pour la personne qui vient se faire masser.
Oui, bien sûr. J'ai un éventail de quelques massages, dont le balinais, qui, comme son nom l'indique, vient de Bali, une île indonésienne. C'est un massage pour moi qui est plus masculin, que je propose souvent à ces messieurs, parce qu'il rend les muscles plus forts, il détend, il donne aussi de la bonne humeur, il fait disparaître toutes les douleurs lombaires, il évacue le stress et la tension, mais il donne aussi une peau souple et douce, ce qui plaît aussi à ces messieurs.
Super.
Après, nous avons le massage typique californien. Alors, qui, comme son nom l'indique, lui, ne vient pas de Californie. Bien souvent, c'est ce que l'on pense. C'est un massage qui a été inventé par une thérapeute marocaine et un médecin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale pour donner un peu de bien-être et de réconfort aux soldats.
Oui, effectivement, à cette période, c'était plus que précolonisé.
Tout à fait. Et donc, il a été, après-guerre, développé surtout en Californie, d'où son nom, le massage californien. C'est un massage qui rend aussi la peau douce, qui élimine les tensions, qui élimine aussi les états négatifs comme l'anxiété et le stress. Et il relaxe aussi les muscles. C'est le massage que l'on fait le plus souvent en institut.
C'est vrai que c'est souvent le plus connu, hein. Le massage californien, c'est quand même un des massages qu'on entend quand même parler assez régulièrement et qu'on retrouve chez beaucoup de praticiens.
Oui, et c'est un massage que je propose en premier massage bien souvent parce que c'est un massage déjà complet du corps et c'est un massage que les gens connaissent. Et c'est un massage qui ne rentre pas en profondeur, je dirais, au niveau des mouvements et du massage.
Donc c'est une bonne approche de découverte.
De découverte pour des personnes qui ne se font pas souvent masser ou qui ne se sont jamais fait masser. Après, nous avons la Bianga, qui lui est un massage qui vient de l'Inde et qui est issu de la médecine ayurvédique. Donc ce massage, il se fait soit à la bougie, soit avec de l'huile chaude de sésame. Et c'est un massage qui, pour moi, est le massage féminin par excellence, car il englobe vraiment tout le corps. On masse vraiment de la tête aux pieds, et c'est un massage qui est très rééquilibrant. On peut dire aussi qu'il agit sur les trajets de l'énergie sur lesquels sont les points de pression. Pour permettre, alors je vais aller dans des petits détails, pour permettre au prana, qui est l'énergie vitale dans la tradition ayurvédique, de circuler et d'harmoniser tout le corps.
Donc tu nous disais tout à l'heure que ce massage était plutôt un massage féminin, parce qu'on massait le corps dans sa totalité. Donc ça veut dire qu'on masse également, je suppose, aussi bien les fesses que la poitrine, partie thorax, poitrine pour les femmes.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je le propose plus aux femmes et que je dis que c'est un massage plus féminin pour moi. Je l'ai déjà effectué chez certains hommes, mais effectivement, on masse la poitrine, les seins, les fesses, on masse vraiment entièrement.
Le corps dans sa totalité.
Dans sa totalité.
Donc pour un homme, forcément, il va y avoir des manœuvres qu'on ne fera pas chez l'homme.
Tout à fait. Il y aura des zones qu'on ne pourra pas masser, donc c'est un massage qui ne se fera pas de la même façon et qui sera plus court, même en temps.
C'est ce que j'allais dire, qui ne durera pas le même temps.
Après, il y a le massage au ballotin d'épices. C'est un massage thaï, donc qui est effectué avec des ballotins remplis d'épices choisies en fonction de ce que l'on va traiter, entre guillemets, c'est-à-dire différentes épices pour une personne qui va venir pour des problèmes de sommeil, une autre qui va venir pour des problèmes de stress. Donc, on change le ballotin avec les épices par rapport au massage et par rapport à ce que la personne attend de ce massage.
La composition varie en fonction des besoins, en fait, tout à fait de la personne.
Tout à fait. Et c'est donc les ballotins se font chauffer à la vapeur, dégagent tout leur potentiel. On ajoute bien souvent dans les ballotins aussi des huiles essentielles. Et donc, on masse avec les ballotins, mais on enduit aussi le corps d'huile avant.
D'accord. Donc, une technique là qui allie à la fois l'huile et la chaleur, puisque les ballotins d'épices sont chauffés.
Tout à fait. Après, nous avons le massage des pieds et des mains. Donc là, celui-ci, il sert à retrouver la souplesse de ses mains, à stimuler les nerfs de différents organes digestifs et respiratoires, comme en réflexologie, à évacuer le stress et à procurer une détente et un sommeil réparateur. Pour les pieds, c'est un peu pareil. Vous agissez sur les différents organes du corps, le pied étant, comme on le sait, la cartographie du corps.
Tout à fait, oui.
Et on stimule aussi la circulation sanguine, on évacue le stress et on détend les muscles. On continue sur le travail du sommeil. Donc c'est pour ça qu'on ne les différencie pas. On fait bien souvent pieds et mains.
Pieds et mains. Et c'est vrai qu'effectivement, les pieds, c'est quand même très très relaxant. Et c'est les zones qu'on va aller travailler quand il y a des soucis de sommeil, notamment en réflexologie plantaire par exemple.
Et pour finir, je propose aussi le Kobido visage, c'est-à-dire le massage du visage. Alors celui-ci vient du Japon, c'est un massage très très ancien et qui est effectué sur que les japonaises font elles-mêmes dès leur plus jeune âge, dès l'âge de 7 ans. On leur apprend à se masser le visage, c'est pour cela aussi qu'elles ont de si belles peaux.
C'est vrai que les Asiatiques ont des très belles peaux, souvent très tirés, avec un teint lumineux.
Tout
donc
à fait.
On comprend leur secret maintenant.
Voilà, c'est le Kobido visage. Donc, il prévient les rides et les ridules. Il oxygène la peau. Il retarde les effets du vieillissement. Il chasse la fatigue et il tonifie la peau. Donc, après ce massage, on applique un masque sur la peau pour pouvoir profiter pleinement de tous les bienfaits de ce massage.
Super. Donc, on a le droit à un massage plus un masque.
Tout à fait.
Donc, un massage du visage qui est quand même relativement complet pour le coup.
Tout à fait.
Tu as donc une carte de massage qui est un panel très diversifié avec plusieurs massages, très intéressants parce que qui viennent d'endroits du monde différents. Mais tu ne fais pas que ça non plus. Tu es donc masseuse, praticienne en massage et tu es aussi aroma olfactothérapeute. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer qu'est-ce que l'aroma olfactothérapie pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors, l'aroma olfactothérapie, c'est réconcilier son corps et son esprit par le ressenti des huiles essentielles. Ça donne un équilibre et une paix intérieure. Alors, l'olfactothérapie, donc là je vais aller dans les termes un peu plus techniques, est une méthode psycho-énergétique qui utilise les odeurs et la vibration de certaines huiles essentielles pour réveiller des souvenirs conscients ou inconscients pouvant être à l'origine de maux psychiques et même voire physiques. Ainsi qu'après la séance, le toucher au niveau du visage et de la tête sur les points énergétiques pour aider la personne qui vient consulter.
Donc comment fonctionne concrètement l'olfactothérapie? Comment est-ce que ça se passe au niveau du corps, au niveau du cerveau? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Oui. Alors l'olfactothérapie, elle utilise le rhinencéphale. Donc c'est une partie du cerveau, du cortex plus exactement, qui comprend les structures nerveuses de l'olfaction, connectée directement donc au nerf olfactif pour faire ressurgir les émotions enfouies, anciennes ou récentes, sans passer par le diencéphale, ce qui est chez nous le mental. Donc on ressent, on sent, mais on ne réfléchit pas.
Exactement, c'est vraiment une méthode qui permet donc de couper avec le mental.
Tout à fait.
Et alors une séance, comment est-ce que ça se déroule?
Donc une séance, le consultant est allongé confortablement, les yeux fermés, il se détend, il prend conscience de son corps en respirant lentement, Puis il est invité à sentir plusieurs huiles définies par le thérapeute, qu'il respire et qu'il doit sentir sans essayer de les identifier.
Oui, c'est important de ne pas chercher
tout
à reconnaître ou à identifier. Encore une fois, ça nous renvoie au fait de couper avec le mental.
Avec le mental. Et tout ce qui lui passe par la tête dès ses inspirations doivent ressortir. N'importe quoi, que ce soit des pleurs, des rires,
des souvenirs, des émotions. Peut-être des sensations même au niveau du corps.
Tout à fait. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens rire, j'ai vu des gens raconter des choses qui leur étaient enfouies. Tout ça, c'est le but de l'olfactothérapie. C'est d'arriver à faire ressentir et à faire ressurgir
des choses
qui sont enfouies. Des fois très lointaines, mais des fois récentes aussi.
Donc c'est vraiment
ce qui procure un mal-être.
Un moyen donc vraiment quand on n'arrive pas à poser des mots MOTS sur des mots MAUX, qu'on peut pas l'expliquer, c'est un bon moyen d'aller chercher ça à l'intérieur,
de le soigner
et puis d'aller de l'avant.
Voilà. Ensuite vient le moment de parole entre le consultant et le thérapeute. On essaie de mettre des mots MOTS sur le ressenti du consultant. Et donc, on analyse tout ça
tranquillement.
Et la séance se termine par un massage, donc des points d'énergie au niveau de la tête et du visage. Et bien souvent, au bout de quelques séances, la personne arrive à mettre des mots sur son ressenti et arrive petit à petit à accepter.
Très bien. Eh bien, c'est super ça. Donc, tu es masseuse, thérapeute et tu es une passionnée de cuisine. Tu organises des ateliers, notamment. Alors, la cuisine, pour toi, ça représente quoi ? J'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Parce que moi, ça m'intéresse bien, la cuisine.
Alors, pour moi, un mot, la santé. Je pense que l'on peut vraiment améliorer sa santé, voire même guérir certains maux par son alimentation. Bien sûr, en cuisinant soi-même et en utilisant des produits sains. Alors, pour moi, du bio et du local, bien sûr. Alors, du bio, pas vraiment, du bio avec des papiers, des certifications.
Certifié.
Mais je le répète, en allant voir les producteurs locaux, en regardant un peu, en discutant avec eux et en étant sûr que ça ne soit pas bourré de pesticides, d'engrais. En respectant les saisons et la nature.
Eh bien, merci Corinne. Alors, si on veut te contacter quand même, un site internet peut-être, est-ce que tu peux nous donner l'adresse ?
Alors, un site internet www.oseffluvedubiennet.com.
Oseffluve du bien-être au pluriel, donc avec un X et un S, à effluve. Un numéro de téléphone également ?
06 87 45 51 58.
Et tu consultes quand et où ?
Je consulte du lundi au samedi sur rendez-vous à Parisot, plus précisément Pêche-Bernou, dans votre espace santé-bien-être.
Très bien, merci Corinne.
Cause you're a sky, cause you're a sky. Start. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. I'm
Star de Coldplay dans Terre d'Elle. Et on retrouve tout de suite la chronique Bien-être et Fourchette avec Corinne. Elle porte un autre regard sur l'alimentation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la figue, ce fruit de saison.
La figue, dont le nom vient de l'occitan, c'est tout un programme. Figa, lui-même issu du latin ficus, figue, figuier. Il est déjà mentionné dans la Bible. Elle est originaire d'Asie mineure et s'est très vite répandue dans tout le bassin méditerranéen. Elle est très appréciée par les Romains. Platon d'ailleurs disait d'elle que c'était la nourriture de ses athlètes. Elle est appréciée aussi des Phéniciens, notamment les Corinthiens, qui eux en glissaient dans les raisins qu'ils exportaient à Venise, car elles étaient moins chères. C'est de cette ruse que viendrait l'expression « mi-figue, mi-raisin ». Aujourd'hui, on en dénombre pas moins de 700 variétés. Elles sont produites dans tout le pourtour méditerranéen et poussent à l'état sauvage dans nos jardins et aux abords de nos chemins. Depuis quelques années, certains arrivent même à la faire fructifier au nord de la Loire. On distingue deux variétés essentielles, la blanche, la marseillaise ou blanquette, commune dans le sud-ouest et le midi. Sa peau est vert pâle et sa pulpe est rouge et bien sucrée. Elle est goûteuse mais assez rare car sa fragilité ne permet pas de la transporter. C'est la figue de nos jardins. La violette, la noire de Carombe, la Soliès, qui elle représente 80% du marché, ou encore la goutte d'or de Nice. Sa peau, elle, est d'un rouge violacé et sa pulpe d'un rouge grenat. On les retrouve sur nos étals de juillet à octobre selon les variétés. Certains figuiers fructifient eux deux fois par an et permettent ainsi de récolter les figues assez grosses au début du mois de juillet et celles dites d'automne en août, en septembre et jusqu'en octobre. Comment la déguster ? Il faut la choisir souple au toucher, saine et charnue, avec une queue ferme. Elle est alors parfaitement mûre, tendre, moelleuse et délicieuse. Une goutte blanche qui perle à sa base doit vous conforter sur la fraîcheur du fruit. Conservez-la vraiment très peu de temps. À moins que votre fruit manque de maturité, il ne peut guère attendre plus de 24 heures. Fragile, la figue s'abîme très vite. De plus, elle ne doit pas entrer dans le réfrigérateur qui masque son arôme. La figue sèche, quant à elle, se garde plusieurs mois dans une boîte hermétique. Elle se cuisine aussi bien en sucré qu'en salé. Je vous propose d'aller voir mes recettes sur mon blog www.lacuisinederose.unblog.fr. De plus, la figue fraîche qui se compote parfaitement sert à réaliser de délicieuses confitures qui nous permettent de la consommer toute l'année. Après, bien sûr, il y a la figue sèche qui, elle, commence sa saison en juillet. Elles sont alors brunes et gonflées. Elles deviennent plus sèches et plus claires à l'approche du mois de décembre, ce qui permet de profiter de leurs bienfaits nutritifs toute l'année. Les bienfaits. La figue fraîche n'est pas aussi calorique que l'on a tendance à le croire. Elle apporte en moyenne 57 calories pour 100 grammes, soit autant que la pomme ou la prune. Sachant qu'un fruit moyen, 45 grammes, ne fournit que 25 calories, on aurait tort de s'en priver. Attention par contre à la figue séchée. Elle est beaucoup plus calorique, 250 calories pour 100 grammes. Par ailleurs, la figue est un fruit très riche en minéraux. Si comme la plupart des végétaux, sa teneur en potassium est élevée, 232 mg pour 100 g, elle affiche surtout une teneur en calcium, phosphore et magnésium très appréciable. C'est aussi une très bonne source d'oligo-éléments, à commencer par le fer, 0,6 mg pour 100 g. Intéressant pour nous mesdames qui manquons souvent de fer. Elle renferme également une quantité non négligeable de vitamine B, souvent déficitaire, qui participe à la beauté de la peau et des cheveux et contient notamment des pigments, aussi appelés vitamine P, aux propriétés protectrices sur les petits vaisseaux sanguins et qui aident aussi à l'absorption de la vitamine C. Enfin, la figue est très riche en fibres, 2,3 g en moyenne pour 100 g. Efficace pour stimuler les intestins, comme le pruneau, elle est recommandée pour lutter contre la constipation. À noter que pour une meilleure digestibilité, il est conseillé de la choisir bien mûre quand elle est moelleuse et tendre. Attention aussi aux personnes qui souffrent du côlon irritable, ne pas en faire une consommation excessive ou faire un essai. Voilà, avec tous ces bienfaits, dépêchez-vous d'en profiter si ce n'est déjà fait.
Et tout de suite, notre chronique éclat de rire et bulle d'idées. Bricolage aux couleurs de l'automne pour les enfants. C'est l'automne, l'occasion de faire une balade en forêt avec les enfants ou un tour dans le jardin pour admirer la nature, prendre l'air et regarder les couleurs. Alors voici quelques idées de bricolage à faire avec eux. Par exemple, la constitution d'un herbier. Vous pouvez ramasser des feuilles, des fruits et des baies, les faire sécher entre deux feuilles de papier journal pendant une semaine et constituer un cahier dans lequel l'enfant colorera la feuille séchée, le fruit ou la baie. Vous pouvez bien sûr les aider à indiquer le nom pour qu'ils puissent les identifier et pourquoi pas les faire même dessiner le dessin de l'arbre ou de la plante en question. Par exemple, le chêne et ses glands, le noyer et une coquille de noix, ça peut être également l'aubépine et ses petites baies rouges qu'on trouve un peu partout en ce moment dans nos haies. Les feuilles d'érable, les feuilles de vigne qui ont à cette époque aussi de l'année une jolie couleur rouge et des teintes orangées. C'est l'occasion pour les plus petits de revisiter les couleurs. Ou alors même, pour vraiment les plus jeunes, de les apprendre. Le rouge, le orange, le jaune et le marron. Une autre idée, vous pouvez également dessiner le schéma d'un arbre sur une grande feuille avec son tronc et ses branches. Alors soit on prend une feuille format A3 ou même plus grande si on a, ou alors tout simplement on assemble plusieurs feuilles, 4 feuilles A4, sur lesquelles on va faire notre petit croquis d'arbre. Sur des feuilles à part de canson, donc les feuilles un peu plus épaisses, alors je dis style canson mais ça peut être autre chose, on va dessiner de grosses feuilles de forme et de taille différentes que les enfants vont pouvoir découper. Vous mettez à disposition de l'enfant les 4 couleurs de l'automne, soit sous forme de peinture, de feutre ou de pastel.
Les enfants pourront ainsi peindre les feuilles, puis les découper et les coller sur leur arbre. Ça et là, sur les branches et au pied du tronc. Une petite idée pour la peinture de l'arbre. Moi, je vous conseillerais de faire peindre les enfants à l'aide de bouchons en liège ou de morceaux d'éponge. C'est quelque chose, vous allez voir, qu'ils vont adorer. On découpe des petits rectangles d'éponge qu'on trempe tout simplement dans le pot de peinture et par apposition sur la feuille, comme des tampons, l'enfant va aller remplir le tronc de l'arbre. Vous le faites également avec des bouchons de liège que vous récupérez. Vous allez voir, ils vont adorer. Le but n'étant pas bien sûr de remplir en peignant linéairement, mais vraiment de tamponner. Utilisez pour l'arbre, le tronc et les branches de la peinture marron. Enfin, une autre idée qu'on peut rajouter à cet arbre, donc on aura notre grand arbre, on aura les feuilles qui vont être disposées sur les branches et quelques-unes par terre aux couleurs de l'automne. On peut également envisager de dessiner des gabarits, par exemple, de champignons. Là encore, l'enfant peut le découper lui-même, le peindre en rouge avec des gros points blancs, pourquoi pas coller des gommettes. Et on viendra ensuite coller ces champignons découpés et peints préalablement sur le sol, à côté, au pied de votre bel arbre d'automne. Une dernière idée de bricolage à faire avec vos enfants, confectionnez avec eux une couronne de l'automne qui servira de centre de table. Alors ça, les enfants vont adorer, c'est super chouette. On prend une feuille cartonnée ou même pourquoi pas un carton qu'on récupère, ça peut être boîte à chaussures ou tout autre carton. On va aller dessiner un rond sur ce carton de 20 à 40 cm de diamètre. Puis on va aller découper un rond plus petit au centre qui servira à déposer notre bougie au centre de la couronne. Et puis on va aller peindre cette couronne. Alors toujours pareil, on est dans l'automne, donc on reste sur la thématique de l'automne et des couleurs de l'automne. Donc faire peindre à l'enfant soit en rouge, en orange, en marron ou en jaune, pourquoi pas même de toutes les couleurs. Puis on va aller tout simplement coller le fruit des petites récoltes qu'on a fait pendant nos balades avec les enfants. Donc ça peut être de la mousse, ça peut être des glands, des noix, des noisettes, des brindilles, des feuilles d'arbres séchées que vous aurez aussi peintes et vernies. Ça c'est quelque chose de très sympa à faire. On récolte les feuilles d'arbres, on les fait sécher, toujours pareil, entre deux feuilles de papier journal. Et puis après, vous les peignez et une fois la peinture sèche, vous les vernissez. Vous vous trouvez avec des jolies feuilles d'automne aux couleurs de l'automne. C'est très joli, ça brille, les enfants adorent. Vous pouvez également les coller sur votre couronne. Au résultat, vous aurez un joli centre automnal de table sur lequel vous pourrez disposer au milieu une bougie pour colorer votre repas. L'occasion de créer avec vos enfants, de découvrir, de sentir, d'observer et de toucher les textures qu'offre la nature à cette époque de l'année. Donc tout de suite, pour terminer notre émission, la Minute Info, ça se passe près de chez vous. Alors, quelques dates. Mardi 27 octobre. Un cercle de parole Féminescence, un cercle dédié aux femmes d'écoute et de bienveillance qui se déroulera au domaine de la Douce Paris entre Cambérac et La Rouquette à partir de 18h30. Tous les mardis matins, venez assister aux rencontres maman-bébé de 10h à 11h à Parisot. Un cycle de 10 rencontres organisé par l'association Terre de Femmes Graines d'Étoiles, qui propose de vous accompagner et d'accompagner votre bébé dans les premiers pas de sa vie. Le 10 octobre, un atelier Femmes lunaires à la découverte de son corps et des plantes alliées de la féminité. Retrouvez toutes ces infos sur le site internet www.terrearcenciel.com. Pour vous inscrire ou poser vos questions, une adresse mail terredefemmes@gmail.com, terredefemmes au pluriel, ou alors le numéro de téléphone suivant 06 22 42 23 92. Le week-end du 17 et du 18 octobre, une cure d'automne résidentielle. Elle se passera au domaine de la Douce Marie. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de Terre Arc-en-Ciel, www.terrearcenciel.com. Mercredi 28 octobre, un atelier parents-enfants dédié à Halloween, confection de bonbons, de décorations et atelier cuisine. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site internet de Terre Arc-en-Ciel. Le week-end du 31 octobre et du 1er novembre, un salon à Toulouse autour de la féminité. Je reçois aujourd'hui Djeya qui va nous en parler, organisatrice de ce salon. Bonjour Djeya.
Bonjour Mélanie.
Alors, peux-tu m'en dire un peu plus sur ce salon ?
Alors en fait, ce salon, il vient d'une longue histoire. Ça fait un an, j'étais au Festival du Féminin Sacré au Québec avec ma fille Léa. Et en rentrant, j'ai eu vraiment l'intuition que c'était important de créer un salon de cette envergure au service du féminin. Et sauf que moi, j'arrivais depuis un an dans la région de Toulouse. Enfin, je venais d'arriver dans la région de Toulouse. Et je me suis dit quand même, c'est un peu audacieux dans la mesure où je ne connais personne. Et finalement, petit à petit, je recevais les visages des unes et des autres, d'amis thérapeutes, d'animatrices à travers toute la France. Et festival, c'est comme ça, ça s'est déroulé comme sur un tapis rouge. Les femmes viennent à moi, les intervenantes, les exposantes, les bénévoles. Et donc, super. Je suis vraiment ravie d'organiser ce festival au service du féminin et d'une association aussi en particulier. Puisque ce sera, nous venons toutes bénévolement, nous intervenons toutes bénévolement pour une association qui s'appelle Parole de Femmes, qui est située à Gaillac.
D'accord. Et alors, au niveau du déroulement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce qu'on vient ? Où ça se passe exactement ? Peut-être des horaires ? Faut-il s'inscrire au préalable ?
D'accord. Alors, c'est très simple. Ça a lieu le samedi. Ça commence à 9h jusqu'à 9h30. Nous accueillons les inscrites et inscrits parce que c'est bien heureusement ouvert aux hommes.
Aux hommes.
Et ils sont les bienvenus. Et ensuite, il y a une cérémonie d'ouverture. Puis à 11h commencent des ateliers, trois ateliers en parallèle systématiquement. Ensuite, il y a des temps de pause, de repas. L'après-midi, à nouveau, des ateliers, trois en même temps. Et le soir, une soirée qui s'appelle Les Hauts Talents, où des artistes viennent se produire pour nous offrir toute leur expression à travers le chant, la danse, le conte. Certaines personnes ont écrit des livres et nous allons lire quelques pages de ces livres en direct.
Magnifique.
Voilà pour le samedi. Et le dimanche, nous continuons des ateliers avec des temps de pause, des temps ce que j'appelle les papotis papotas, parce que souvent dans ce genre de festival, on n'a pas le temps de se rencontrer.
C'est
et
vrai.
L'idée, c'est de prendre le temps, d'être plutôt dans un temps yin, dans un temps où on ne va pas courir d'atelier en atelier, qu'on ait le temps de rencontrer les exposantes, qu'on ait le temps de rencontrer les animatrices qui seront là sur les deux jours. Et chaque animatrice anime un atelier sur tout le week-end. Et l'idée, c'est vraiment qu'on partage ensemble. Donc, ce n'est pas pyramidal, c'est plutôt horizontal. C'est une histoire de partager tout ensemble des ateliers, de se connaître autrement et de prendre notre temps et de découvrir des activités que peut-être nous n'aurions pas pensé rencontrer un jour dans notre vie au quotidien.
Donc, un vrai temps d'échange et un vrai cocon que tu as créé pour ce salon.
Exactement, et dans un écrin de verdure chez une femme qui est devenue une amie. Donc c'est un lieu privé, c'est une femme qui, une belle histoire de femme aussi, qui a restauré son lieu avec ses filles et un ami pendant 12 à 13 ans. Et il s'est passé qu'en fait, un jour, elle a découvert que sous les ronces, il y avait une ancienne abbaye bénédictine.
Oh, super.
Et c'est devenu un lieu magnifique. Et donc, c'est un lieu privé, donc on ne peut pas accueillir énormément de personnes. En termes de sécurité, on peut
bien
être
150 sûr.
Maximum. Donc, pour répondre à ton autre question, ça veut dire qu'on demande en effet aux personnes de s'inscrire préalablement sur le site pour pouvoir réguler le nombre d'inscrites.
Donc, sur le site internet www.festivalaupluriel.fr, c'est ça ?
Exactement.
Dans l'onglet inscription, tout à
voilà.
fait.
Plusieurs onglets avec plein de couleurs, plein de belles photos. C'est moi qui ai fait ça.
D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir ce site internet qui est très, très joli.
Merci, merci. C'est mon homme en fait qui l'a mis en ligne et comme je le disais, moi j'ai fait les photos parce que j'adore J'adore photographier la nature. Et là, voilà, c'est vrai que c'est une belle mise en lumière au service du féminin.
Très joli, en effet. Juste pour terminer, j'aimerais que tu nous dises alors un exemple d'atelier ou de thérapeute que les visiteurs pourront rencontrer lors de ce salon.
Alors, un, ça va être réducteur, parce que je ne voudrais pas faire de jalouse. Alors, pour une fois, j'ai parlé de moi. Par exemple, je propose, après l'ouverture du salon, qui sera une belle cérémonie d'ouverture, un atelier danse-médecine, qui est une danse de guérison, en fait. Moi, j'ai fait pas mal de danse depuis une vingtaine d'années, et c'est la convergence de tous ces styles de danse où on va danser nos émotions. Et c'est un travail corporel d'expression de soi, d'expression de son féminin pour libérer toutes les tensions et oser être la femme que nous sommes.
Super.
Et voilà, donc il y a plein de conférences, plein de choses passionnantes. Le plus dur pour nous, ça va être de choisir, en fait.
Je crois que pour les visiteurs, oui, tout à fait. Le plus difficile va être de choisir ses ateliers, exactement. Eh bien, écoute, je te remercie, Jeya. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent le site internet www.festival.fr. Jeya, donc l'organisatrice, sera très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez également la contacter au 06 21 21 16 33. Et le salon se déroulera le 31 octobre et le 1er novembre près de Toulouse. Merci beaucoup, Jeya.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté Terre d'Elle. Le mois prochain, notre invitée sera Julie, esthéticienne, et elle nous parlera de la peau. Comment reconnaître les différents types de peau et quels soins y apporter. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur l'adresse mail terredelle@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.